France Culture, il est midi et demi plus une minute. L'heure pour vous de retrouver, en tout cas le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous débuterons évidemment ce journal avec l'annonce du décès ce matin d'Agnès Varda, qui s'était imposée comme la réalisatrice emblématique de la nouvelle vague avant de multiplier les succès critiques. La cinéaste était âgée de 90 ans.
Dans votre journal également, le Venezuela avec Juan Guaido, président autoproclamé qui a été privé hier du droit d'exercer le moindre mandat public pendant 15 ans.
Mais le chef de file de l'opposition a appelé à de nouvelles manifestations demain contre le régime du président élu Nicolas Maduro. Ce devait être le jour du Brexit et ce sera au mieux le jour de la sortie de l'impasse. Les députés britanniques sont appelés à voter aujourd'hui sur l'accord de divorce avec l'Union européenne, un texte déjà massivement rejeté à deux reprises à la Chambre des communes.
Le ministre français des Comptes publics a plaidé aujourd'hui pour la suppression de la redevance audiovisuelle.
Gérald Darmanin qui précise avoir soumis cette proposition en tant que simple citoyen à Emmanuel Macron et Édouard Philippe dans le cadre du grand débat national. Enfin, l'invité Europe de la rédaction aujourd'hui dans une vingtaine de minutes, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
L'immortalité, une quête sans fin. On en parlera avec nos deux invités, le réalisateur Roland Portiche et le biologiste Miroslav Radman. Nous parlerons des dernières trouvailles en la matière et aussi de nos croyances pour prolonger la vie. Ce sera donc dans la deuxième partie de l'émission.
Merci et à tout à l'heure. C'était en février dernier à la Berlinale, lors de la présentation de son nouveau documentaire Varda par Agnès. Elle avait indiqué qu'elle devait se préparer à dire au revoir, à partir. Et ce matin, la cinéaste, mais aussi photographe, plasticienne et icône féminine de la nouvelle vague, Agnès Varda, s'est donc éteinte à l'âge de 90 ans.
À 25 ans, j'avais peut-être vu 7-8 films. Ça veut dire que le fait d'avoir été sans connaissance m'a donné du culot, je crois, puisque j'avais pas de référence. C'est-à-dire que j'ai pensé que si on réfléchissait à un film avant, à quelle forme il pourrait avoir, ça serait intéressant. Mais le problème a toujours été l'argent. Cette contrainte, et puis l'autre contrainte, c'était le temps. Plus j'avance, plus j'aime faire les documentaires, parce que plus les autres m'intéressent. Et certains autres. C'est évidemment l'idée de mettre en valeur les gens, ça me fait plaisir. Ça me met de bonne humeur. Parce que ces choses qu'on a aimées, c'était tellement virtuel. J'avais envie de les mettre en vrai comme ça. Et les installations m'ont permis de parler autrement des choses.
Antoine Guillaume, bonjour.
Bonjour Thomas.
Nous venons de réécouter la voix d'Agnès Varda à l'occasion d'une masterclass que vous aviez signée, c'était en août 2017 et dont je précise d'ailleurs qu'elle sera rediffusée demain dans son intégralité à partir de 14h sur l'antenne de France Culture. Alors celle qui était née, Arlette Varda, aura vu jusqu'au bout sa vie et le cinéma s'entremêler au point de former la trame de plusieurs œuvres marquantes, toujours à la frontière entre documentaire et fiction. Et puis, Agnès Varda restera à jamais comme l'une des rares femmes donc à avoir figuré sur la carte du jeune cinéma des années 60.
Oui, et c'est une grande précurseur de la nouvelle vague dès 1954. Elle a une première vie avant même de faire ça. Elle est une photographe importante puisqu'elle accompagne de 1948 à 1960 les tout jeunes festivals d'Avignon et puis le Théâtre National Populaire de Jean Villard. Et sa deuxième vie, c'est donc celle de cinéaste avec ce film qu'elle réalise avec deux comédiens du TNP et pas des moindres, hein, Philippe Noiret et Sylvia Manfort. C'est La Pointe Courte qu'elle tourne à 7 dans la région de son enfance. Alors c'est un film précurseur de la nouvelle vague parce qu'il a très peu de moyens, il est très libre et puis il a déjà cette façon de mêler fiction et regard documentaire, les deux faces de son cinéma avec lequel elle va jouer sans cesse depuis. Alors côté fiction, des grands films comme Cléo de 5 à 7, Le Bonheur, L'une chante, l'autre pas, et puis bien sûr Sans toi ni loi avec Sandrine Bonner, Lion d'or à la Mostra de Venise en 1985 et puis Jaco de Nantes. Alors là déjà on est entre la fiction et le documentaire, c'était l'hommage très émouvant à l'enfance de Jacques Demy, son compagnon de 35 ans. Et alors côté documentaire, plein de films, des petits, des grands, en noir et blanc, en couleur, Opéra Mouffe, Daguerréotype, Murmure, Les Glaneurs et la Glaneuse, Les Plages d'Agnès et puis plus récemment Visage Village et cette leçon de cinéma qu'elle a donnée à la télévision, Varda par Agnès. Mais alors, comme dans le diptyque que vous avez peut-être vu, Kung Fu Master d'un côté et Gen B par Agnès V de l'autre, on ne sait jamais si on est vraiment dans la fiction ou dans le documentaire. Chez Varda, la frontière est toujours indécise et l'ensemble de ses films pourrait prendre le titre de celui qu'elle avait réalisé en 1982 qui s'appelait Documenteur. Agnès Varda, c'était la documenteuse qui, dans la dernière partie de sa vie, elle vient de le raconter, va être une grande plasticienne avec beaucoup d'humour, souvenez-vous de l'installation qui s'appelait Patate Utopia, où on voyait d'un côté des pommes de terre, et puis on voyait Agnès Varda elle-même en robe patate. Elle était extraordinairement drôle et très très grande cinéaste, Agnès Varda.
Merci Antoine Guillot, et j'ajoute donc qu'outre la rediffusion de votre masterclass demain à 14h, dès 19h ce soir, la dispute sera entièrement consacrée à la disparition donc ce matin d'Agnès Varda. Voilà 2 mois maintenant que le Venezuela est confronté à l'une des plus graves crises de son histoire, économie au ralenti, situation humanitaire de plus en plus critique, pénurie de biens de première nécessité, réapparition de certaines maladies mortelles du fait du manque d'accès à l'eau potable, mais aussi panne d'électricité massive, sans oublier bien entendu des convulsions politiques inédites qui auront fini par fracturer littéralement le pays en deux entre disciples du chef d'État socialiste Nicolas Maduro d'un côté et puis partisans du député de centre-droit Juan Guaido de l'autre. Or, voilà qu'hier, comme pour ajouter un peu plus encore à la confusion générale dans ce pays où désormais plus personne ne reconnaît la légitimité de personne, le chef de file de l'opposition et président par intérim, autoproclamé Juan Guaido, a non seulement été révoqué de son poste de président du Parlement, mais aussi déclaré inéligible durant les 15 prochaines années pour corruption présumée. Olivier Pouget, bonjour.
Bonjour Thomas.
Le contrôleur général de la République soupçonne Juan Guaido d'avoir menti sur ses déclarations financières. Ses dépenses ne correspondraient pas au niveau de ses revenus.
Oui, un contrôleur général que l'on peut, sans risque, relier à Nicolas Maduro. Le gouvernement avance donc un nouveau pion dans sa partie d'échec avec le leader de l'opposition. Juan Guaido a immédiatement, bien sûr, rejeté ses sanctions et ses accusations hier, soutenu par le groupe de contact des pays latino-américains et évidemment Washington, qui juge ses décisions ridicules. Ce que révèlent en fait ces annonces d'hier soir, c'est que le plan d'attaque de Maduro pour neutraliser Guaido devient plus élaboré. La méthode forte, les interpellations, les mises en résidence surveillées, qui ont sorti officiellement du jeu des opposants comme Leopoldo López notamment. Cette méthode ne fonctionne pas pour Juan Guaido, personnage médiatique, reconnu président par intérim par 50 pays étrangers. Il faut donc trouver la faille. Donc le contrôleur d'État s'est penché sur le train de vie de Guaido. 91 voyages à l'étranger, 94 000 dollars de dépenses dont Guaido n'a pas justifié l'origine. C'est largement, visiblement suffisant pour révoquer, rendre inéligible et probablement essayer de justifier une arrestation de Juan Guaido dans un avenir proche.
Alors, cette nouvelle affaire, Olivier, a relancé donc la crise intérieure, mais la tension autour du Venezuela est également montée d'un cran hier sur la scène internationale.
Oui, entre Moscou et Washington, une centaine d'officiers, 2 avions de l'armée russe sont arrivés en début de semaine à Caracas. Donald Trump a exigé mercredi qu'il quitte le territoire vénézuélien. Le Kremlin a très mal pris l'injonction, justifie sa présence par des accords de coopération militaire et prie la Maison-Blanche de bien vouloir se mêler de ses affaires. À l'intérieur comme à l'extérieur des frontières vénézuéliennes, chaque camp consolide ses positions, refuse le dialogue, ne reconnaît aucune légitimité chez l'adversaire, une situation de plus en plus polarisée, aucune solution en vue, même les positions les plus fanatiques n'envisagent pas d'intervention militaire, tout en fait Thomas pour que cette crise pourrisse encore pendant de très très longs mois.
Merci Olivier Poujade. Si les appels du pied de Donald Trump à l'OPEP sont assez fréquents, ils sont aussi, selon les moments, plus ou moins cordiaux. Hier, le chef de la Maison-Blanche n'était visiblement pas d'humeur dans un de ses tweets dont il a le secret. Il a tout simplement et vivement enjoint l'organisation des pays exportateurs de pétrole menée par l'Arabie Saoudite à augmenter sa production pour faire reculer les cours du brut. Et de fait, peu de temps après ce message, les cours ont brusquement reculé avant de limiter leurs pertes quelques minutes plus tard. Toujours est-il que les injonctions du président américain mettent désormais la pression sur l'Arabie Saoudite, laquelle a bien du mal à convaincre la Russie de prolonger l'accord d'encadrement de la production de pétrole à l'œuvre depuis le début de l'année. Dans le même temps, les États-Unis ont également donné leur feu vert à plusieurs entreprises américaines pour qu'elles puissent travailler sur 2 projets nucléaires en Jordanie et 6 autres en Arabie Saoudite, justement, une annonce accueillie avec inquiétude par de nombreux élus du Congrès américain, lesquels craignent non seulement que le royaume wahhabite ne cherche à acquérir l'arme atomique, mais aussi que le partage de la technologie nucléaire avec Riyad ne conduise plus largement à une course aux armements au Moyen-Orient. Emmanuel Macron doit lui recevoir aujourd'hui à l'Élysée le roi Abdallah II de Jordanie pour échanger sur les différentes crises qui secouent actuellement la région du Moyen-Orient, en particulier la Syrie, le conflit israélo-palestinien. Hier, le roi de Jordanie, conjointement d'ailleurs avec son homologue du Maroc, a affirmé que la décision de l'État hébreu d'annexer le Golan était, je cite, « illégale et nulle ». En revanche, il s'est bien gardé de mentionner la décision du président américain de reconnaître la souveraineté israélienne sur ce territoire syrien. Les précisions de Christian Chéneau.
La Jordanie est aujourd'hui dans l'œil du cyclone. Le roi Abdallah II tient bon au milieu de toutes les crises de la région. D'où qu'il se tourne, depuis son palais d'Aman, ce n'est qu'un horizon de péril et de danger. À l'est, dans le désert, son armée est sur le qui-vive pour empêcher l'infiltration des djihadistes de Daesh, vaincus dans leur dernier réduit à Baghouz. Au nord, la frontière syrienne est calme, un point de passage a d'ailleurs été rouvert vers Damas, mais les dizaines de milliers de réfugiés syriens croupissent toujours dans des camps comme celui de Za'atari. Juste à côté, le roi Abdallah II garde un œil inquiet sur le plateau du Golan, occupé puis annexé par Israël, que Donald Trump vient de reconnaître comme faisant partie du territoire israélien. Sans parler de la question de Jérusalem, où la Jordanie reste la gardienne des lieux saints musulmans. Forcément, le transfert de l'ambassade américaine dans la cité biblique, ainsi que l'intensification de la colonisation juive dans la partie arabe de la ville, ne peut qu'inquiéter le souverain hachémite, dont le royaume est considéré par un certain nombre de responsables israéliens comme la patrie alternative des Palestiniens.
Les monarchies du Golfe, décidément à l'honneur, en visite au Qatar. Le Premier ministre Édouard Philippe a lui annoncé hier la signature d'un accord de coopération autour de la sécurité de la Coupe du Monde 2022 de football. Il faut dire que Doha, via le Paris Saint-Germain, a fait de la France son attaquant de première ligne en matière de ballon rond, et ce en amont d'une Coupe du Monde à l'attribution pour le moins controversée. Après la taxe d'habitation, le gouvernement supprimera-t-il la redevance? Ce matin, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a proposé de supprimer la contribution à l'audiovisuel public. Le ministre du Budget invoque notamment le coût que représentera bientôt la perception de cet impôt, traditionnellement couplé à la taxe d'habitation, laquelle est amenée à disparaître complètement d'ici la fin du quinquennat. Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans la proposition de ce matin, vous avez relevé, vous, un certain nombre d'éléments contradictoires.
Oui, pour cela, je vous propose écoutez tout d'abord Gérald Darmanin.
Moi, je crois que le plus intelligent, ce serait de remettre des impôts que paye tout le monde et qui sont assez injustes. On l'a fait avec la taxe d'habitation. La question de la redevance télé pourrait se poser.
Alors, le plus intelligent, ce serait de remettre des impôts que paye tout le monde et qui sont assez injustes, semble assez obscur sur le fond du point de vue de la cohérence. Le ministre des Comptes publics ajoute.
C'est l'impôt que payent le plus les gens, la redevance télévisée, notamment les personnes âgées. Et tout le monde sait aujourd'hui que on regarde la télévision, et singulièrement la télévision publique, par autre moyen que simplement un écran de télévision.
Voilà, sauf que l'impôt ou la taxe que payent le plus les gens n'est pas la redevance, mais la TVA. On pourrait aussi préciser que les personnes âgées sont celles qui regardent le plus la télé sur leur téléviseur, et que ce sont les plus jeunes qui multiplient les écrans. Le ministre de la Culture, Franck Riester, interrogé ce matin par nos collègues de France Bleu Azur, a formulé une autre interrogation qui sous-tend cette sortie du ministre des Comptes publics.
La question, c'est de savoir si on a besoin d'un service public de l'audiovisuel dans notre pays. Et pour moi, la réponse est trois fois oui. Oui, nous avons besoin d'un service public de l'audiovisuel fort. Parce qu'il y a des enjeux considérables en matière d'éducation, en matière de culture, en matière d'information.
Et le ministre de la Culture remet en avant une autre question fondamentale, celle du financement.
La question, c'est d'avoir un financement qui soit à la hauteur des besoins et qui soit pérenne et qui garantisse l'indépendance de l'audiovisuel public par rapport au pouvoir politique. C'est ça l'enjeu.
Pour ce qui est des modalités techniques, selon les mots de Franck Riester, ce sera au président de la République et au Premier ministre de trancher la question.
Merci Sophie Delpont. Depuis deux ans déjà, le 29 mars 2019 était inscrit à l'agenda international comme le jour où devait être définitivement prononcé le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais personne n'avait imaginé jusque-là qu'il serait aussi le jour où devraient se régler deux autres différends familiaux et non des moindres. Le premier entre les institutions britanniques, modèle de stabilité depuis des siècles, et puis le second entre les divisions idéologiques qui déchirent aujourd'hui le parti conservateur au pouvoir. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
Alors, énième épisode de cette invraisemblable saga autour du Brexit. Cet après-midi, les députés britanniques seront appelés pour la troisième fois à se prononcer pour ou contre l'accord de sortie négocié avec Bruxelles, avec une nouveauté puisque, pour convaincre les plus récalcitrants, Theresa May a promis de céder sa place en cas de résultat favorable. Un geste qui manifestement a convaincu certains Brexiteurs à rentrer dans le rang. Pourtant, rien ne garantit encore que l'accord pourra enfin être entériné, comme en témoigne d'ailleurs le débat qui se tient depuis ce matin à la Chambre des communes.
Vous voyez, c'est dans une ambiance, vous imaginez, très fébrile que le débat s'est ouvert il y a environ deux heures.
Order. Order.
Vous entendez là le président de la Chambre, le désormais célèbre John Bercow, et son non moins célèbre Order, utilisé à loisir ces dernières semaines pour ramener le calme aux communes. C'est donc un jour censé être décisif, un de plus pour le Brexit. Theresa May, robe rouge, veste claire, a pris place sur le banc du gouvernement, aux côtés de l'attorney general Geoffrey Cox. D'emblée, il dramatise l'enjeu du vote qui suivra le débat. C'est la dernière chance, insiste Geoffrey Cox, d'adopter l'accord et d'avoir jusqu'au 22 mai pour mettre en œuvre le Brexit.
Je soumets à cette Chambre un choix raisonnable et je lui demande de l'examiner avec beaucoup d'attention et de bien réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre dernière chance d'obtenir un report, un délai légal. Aucun autre report n'est garanti. Tout autre report exigerait l'organisation d'élections européennes. Nous sommes donc à un tournant de notre histoire, crucial pour l'avenir de ce pays et pour son histoire. Je demande instamment à tous les membres de cette Chambre de saisir cette chance maintenant. Monsieur le Président, je demande à cette Chambre d'adopter cet accord.
Le problème, vous l'avez dit, c'est que la démission de Theresa May dans la balance ne suffit pas à convaincre assez de députés. Et puis plusieurs travaillistes ce matin posent aussi la question de ce vote scindé, l'accord aujourd'hui, la déclaration politique plus tard. Or, elle pourrait être modifiée de façon substantielle. On nous demande, disent-ils, de voter à l'aveugle. D'autres redoutent aussi de voir le gouvernement prendre trop de pouvoir dans ce nouveau processus. Vous le voyez, à quelques heures du vote, les esprits sont toujours aussi divisés et il faut le dire, assez peu convaincus.
Merci Marie-Pierre Véro. Autre compte à rebours, celui avant les élections européennes qui se tiendront dans l'ensemble des 27 États membres entre le 23 et le 26 mai prochain. Et entre autres enjeux de ce moment majeur de la démocratie européenne se pose notamment la question de savoir comment prévenir toute ingérence étrangère dans la campagne. À ce titre, Facebook accusé de laxisme face à l'utilisation par la Russie du réseau social pour interférer dans l'élection présidentielle américaine de 2016 a annoncé ce matin, sous la pression de l'exécutif européen, le lancement d'un dispositif dit de transparence. Transparence publicitaire. Après avoir passé des décennies derrière le rideau de fer avant de rejoindre l'Union européenne, la Slovaquie se choisira demain un nouveau président ou présidente d'ailleurs, puisque Zuzana Kaputova, avocate libérale et écologiste, pourrait bien devenir la première femme à la tête du pays. Bien que novice en politique, cette activiste de 45 ans semble aujourd'hui bénéficier du désenchantement des électeurs vis-à-vis de la coalition au pouvoir. Après avoir remporté le premier tour de l'élection, elle est désormais créditée de plus de 60% d'intention de vote. Enfin, en Algérie, une nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui, alors que le Conseil constitutionnel n'a pas encore débattu d'une éventuelle procédure de destitution du président Bouteflika pour inaptitude à exercer sa charge. Les Algériens s'apprêtent à dire à l'armée si sa proposition d'écarter l'octogénaire suffit à calmer ou non la contestation contre le régime. L'invité Europe de la rédaction aujourd'hui, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances en direct et en duplex du ministère des Finances. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Annabelle Grelier. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Nous sommes aujourd'hui le 29 mars, la date donc à laquelle aurait dû sortir ce soir à minuit la Grande-Bretagne de l'UE. C'est toujours la confusion, on vient de l'entendre, à Westminster. Madame la ministre, comment la France se prépare-t-elle au Brexit? Vous suivez le dossier en lien avec les entreprises, diriez-vous, qu'elles sont prêtes pour faire face et de surcroît si la sortie devait être désordonnée?
Alors, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'être prêt pour une sortie le 13 avril sans accord. Puisque l'alternative, c'est une sortie avec accord qui aurait produirait ses effets à compter du 1er janvier 2020. Donc on est dans une 2021, pardon. Donc on est dans une autre histoire où les entreprises, évidemment, sont prêtes pour cette deuxième échéance. Surtout que cette deuxième échéance se ferait avec un accord sur la relation future entre la France et l'Union européenne et le Royaume-Uni, c'est-à-dire qui préciserait les droits de douane, la manière dont on fonctionne ensemble. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est que les entreprises soient prêtes à le 13 avril à ce que le Royaume-Uni devienne un pays tiers. C'est comme n'importe quel autre pays de l'OMC qui n'aurait pas d'accord de libre-échange avec la France. Ça veut dire des droits de douane immédiatement applicables, ça veut dire des procédures de dédouanement, ça veut dire des autorisations sur les produits sanitaires et un certain nombre d'éléments de cette nature. Bien entendu, la Commission européenne et la France ont pris des mesures pour faire en sorte qu'il y ait des suspensions provisoires pour que ce ne soit pas le Big Bang le 13 avril. Par exemple, les avions vont continuer à voler, les camions vont continuer à être autorisés à circuler. Les Européens qui travaillent au Royaume-Uni, de même que les Britanniques qui travaillent en France, pourront continuer à travailler et verront leur titre reconnu. Mais pour chacun de ces éléments-là, il y a une période de 9 mois, de 12 mois, ça dépend, de façon à ce que chacun se mette soit prêt. Ce qui est clair, c'est que donc le 13 avril pour les entreprises, il faut être prêt à dédouaner de la marchandise, il faut avoir anticipé ça, et aujourd'hui, on a plutôt une bonne préparation, mais pas pour tout le monde, et c'est pour ça que nous envoyons un message en disant il faut prendre la chose très au sérieux.
Une question d'Annabelle Grolier.
Alors justement, vous avez dit, Agnès Pannier-Runacher, il faut se préparer au pire, on ne doit pas être dans le déni, vous en avez appelé à une mobilisation absolue des entreprises qui travaillent avec le Royaume-Uni. Est-ce que vous avez été entendue? Et puis surtout, par où vous avez commencé? Quels sont les points les plus urgents là?
Les points les plus urgents pour les entreprises, c'est de regarder tous les points de contact qu'elles ont avec le Royaume-Uni et par rapport à ces points de contact, de s'assurer qu'il y a soit des mesures qui existent et qui ont été prises par la Commission européenne ou par la France et qui fait qu'on n'a pas une journée mais ou 15 jours pour se mettre en pour se préparer, mais qu'on a bien 8 mois, 9 mois, 12 mois suivant les cas. Et la deuxième chose, c'est effectivement de commencer à préparer le dédouanement. Pour moi, le dédouanement est probablement le sujet sur lequel il y a le plus d'impact, parce que l'État s'est préparé, le gouvernement, vous avez plus de douaniers, vous avez des zones de dédouanement, nous avons mis en place un dédouanement dématérialisé, nous avons fluidifié les process sur Calais, sur le tunnel sous la Manche, la zone de Caen, etc. Mais à un moment, il faut que les entreprises déclarent leurs marchandises, donc qu'elles anticipent. Donc s'il y a une première urgence, c'est clairement celle-là, et de déterminer tous ces points de contact, et de ne pas hésiter à se mettre en relation avec leur fédération, à aller sur le site brexit.gouv.fr qui donne énormément d'informations, à saisir directement les douanes ou la direction générale des entreprises qui ont des numéros verts pour répondre à toutes les questions.
Alors les PME, évidemment, n'ont pas toujours le support juridique hein, pour se préparer à ce type de situation. Comment vous les avez aidés? Vous avez dit un petit peu avec des plateformes, mais ça devait peut-être être un peu fébrile, non, du côté des entreprises? C'est beaucoup de travail hein.
Ça dépend le nombre de contacts et la nature des contacts. Lorsque vous avez un flux d'exportation qui est assez stabilisé, une fois que vous avez mis en place votre procédure de dédouanement, c'est pas tellement différent de procédure de dédouanement que vous avez vis-à-vis de d'autres pays avec lesquels vous avez des relations commerciales hors UE. Donc vous êtes déjà préparé. Il est rare qu'une PME ne fasse du commerce qu'avec le Royaume-Uni en hors de l'Union européenne.
J'entends plus rien. D'accord. On vous entend toujours très bien.
Agnès. Moi, je vous entends plus.
Ah ben si, vous m'entendez, Agnès Pannier-Runacher.
Alors, la liaison, manifestement, a été coupée. Est-ce que nous allons vous retrouver? Manifestement, ce sera terminé pour aujourd'hui. Eh bien, nous remercions.
Allô, oui, désolé, je ne vous entendais plus.
Très bien. Donc, quels sont les risques réels, là? Vous avez fait l'état des lieux. Quel est le pire auquel on peut s'attendre le 12? L'Eurostar, par exemple, circulera?
Bien sûr, l'Eurostar circulera et les avions décolleront. Fort heureusement, les gouvernements ont anticipé ces sujets-là. Simplement, les formalités prendront un peu plus de temps. Donc, il faut prévoir le temps du dédouanement, le temps de ces éléments-là. Mais vous savez, le Royaume-Uni était déjà hors espace Schengen, donc il n'y aura pas de grosses surprises de ce côté-là. C'est plutôt côté marchandises, côté chaîne logistique, qu'il faut que les entreprises se préparent, et en particulier lorsqu'elles exportent ou importent des produits dont la durée de vie est limitée ou qui doivent être conservés dans des conditions particulières. Mais encore une fois, rien d'insurmontable. Pour les entreprises, il faut juste qu'elles anticipent. Il ne faut pas attendre le 13 avril pour tout d'un coup vouloir faire sa procédure de dédouanement. Ça ne prend pas un temps considérable. Elles le font avec d'autres pays. Il faut simplement se dire que ce qui a paru longtemps abstrait aux entreprises françaises peut devenir une réalité tout à fait réelle dans 15 jours.
Agnès Pannier-Runacher, on attend un nouveau remaniement ministériel et notamment un nouveau ministre des Affaires européennes pour le sujet qui nous concerne. Depuis le début du mandat, 14 ministres ont quitté le gouvernement. Pourquoi cela paraît difficile d'être ministre aujourd'hui?
Moi, je crois pas que ce soit très difficile d'être ministre aujourd'hui. En revanche, c'est un travail qui est très intense et où il est. Vous avez aussi des perspectives d'évolution, de changement. Aujourd'hui, Nathalie Loiseau, par exemple, conduit la liste européenne pour La République en Marche, une liste très large. Qui d'autre que quelqu'un qui a porté toutes les négociations européennes, qui a une connaissance profonde de ces dossiers, qui a un engagement personnel indiscutable sur l'Europe, pouvait porter cette liste. Moi, je pense que c'est un choix excellent. Et donc, tout ça est le cours normal des choses. Je ne crois pas que ce soit particulièrement différent d'autres situations ou d'autres mandatures.
Et on terminera là-dessus. Merci Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État, je le rappelle, auprès du ministre de l'Économie et des Finances, d'avoir été en direct et en duplex avec nous du ministère des Finances. Merci également à Lucien Lefebvre pour les moyens techniques, ainsi qu'à Annabelle Grolier. On termine avec un mot rapide de météo. Globalement, une belle journée ensoleillée avec toutefois quelques nuages bas persistants près des côtes basques et landaises. Quant aux températures, elles sont douces, comprises entre 14 et 22 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.